Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui a dit que les femmes étaient de grandes rêveuses, des créatures éprises de romantisme parfois, de désirs d'évasion pour d'autres, ou tout simplement d'une manière d'habiller la réalité qui vous fait dire qu'elles y voient quelque chose qui vous échappe, machiste, anti-moderne que ce genre de remarque? Eh bien, je ne suis pas sûr que nos trois bonnes fées de ce jour prouveront le contraire, trois grandes lectrices qui vont nous aider à nous persuader qu'offrir des livres à Noël à ceux que l'on aime, et à ceux que l'on n'aime pas d'ailleurs, c'est les aider à entrer dans le mystère de Noël. La réalité toute nue, un enfant couché dans la paille, à deux pas de la crotte d'un âne, mais tellement plus. Des livres pour Noël, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église. Ce vendredi matin, c'est l'une de nos habitudes, mais je m'en réjouis. Avec vous, nos trois chroniqueuses, quelque part, Sylvie Ostry, toujours en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes sur cette antenne. Bonjour.
Bonjour à tous.
Monique Fauché, coproductrice de l'émission Parole d'auteur et Parole de lecteur. Bonjour Monique.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, vous êtes chez vous pour, on va dire, raisons sanitaires, mais vous êtes bien avec nous et c'est l'essentiel. Et Isabelle Duché, en charge de la chronique Famille et vous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors, on commence comme à chaque fois avec les livres jeunesse. Monique, ça devient un rendez-vous, hein. Je vais bientôt prétendre à peut-être pas autant d'ancienneté que vous, mais c'est un de vos rendez-vous littéraires de fin d'année, Monique Fauché, ou pas? Cette émission
Non, j'en ai encore un demain soir.
Ah d'accord, bon bref, vous multipliez les rendez-vous littéraires. Alors on commence avec vous, Sylvie Ostry. On va parler donc de livres pour jeunes. Jeunes, ça va jusqu'à, on va dire, le début de l'adolescence. Après, on parlera de quelques romans avec Monique Fauché, qui insiste, hein, parce que Monique, vous allez nous reparler par exemple des jours de Sylvain Houillon. Vous nous en aviez parlé déjà en juin dernier, puis quelques beaux livres SPI. Pour finir, des livres dont on a parlé déjà, pour certains, ou d'autres à découvrir. Alors on commence avec les plus petits, Lilo Fête Noël de Mélissa Pigeois, voilà, c'est aux éditions GM. Alors on ne peut pas montrer le livre, mais est-ce que vous pouvez commencer peut-être par décrire un petit peu le dessin, Sylvie Ostry?
Eh bien le dessin, c'est donc Lilo, un frère et une sœur. Ce sont des dessins qui sont tout simples, tendres, jolis, un peu japonisants. Et qui vous amène dans la préparation de Noël. Donc, enfin, ma petite nièce à qui j'ai lu l'histoire, donc 3 ans, s'est régalée. Donc, c'est vraiment le temps de l'Avent. Nous avons ce petit garçon et cette petite fille qui écrivent leurs lettres au Père Noël, qui détachent chaque jour les pages du calendrier de l'Avent, qui se demandent s'ils ont été sages, qui promettent de l'être pour l'année prochaine au cas où cette année c'est un petit peu juste, qui décorent le sapin, il y a la neige, les préparations des biscuits dans la cuisine avec les parents, la préparation du sapin et surtout... la chance qu'ils vont avoir, c'est de partager le repas de Noël avec toute leur famille élargie, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour nous en cette période de l'année.
Donc on sentait que c'était presque ce qui vous avait fait le plus de bien de lire avec votre petite fille, non?
Absolument, enfin avec ma petite nièce.
Voilà.
Ma petite micro-nièce, voilà, Sophie a 3 ans, et qui s'est régalée à pouvoir partager, puisqu'évidemment elle ne sait pas lire, donc il faut lui lire les histoires, mais elle s'est beaucoup amusée. Donc je le conseille pour les tout-petits, dès 3 ans, et si cet album vous plaît, vous pouvez aussi acheter le deuxième album de cette auteure, Mélissa Pigeois, qui a écrit aussi « Lilo à la neige, c'est d'actualité, on ne peut pas aller skier, mais au moins on peut faire de la luge ». Voilà.
Donc on commence à vivre les choses par procuration, c'est bien.
Voilà, exactement.
Donc c'est aux éditions GM, donc c'est un dessin donc très épuré, comme vous disiez, c'est assez joli et symbolique aussi. Hein.
Voilà, oui, tout à fait.
Un dessin,
voilà,
très symbolique.
C'est épuré, c'est japonisant, c'est tout doux. On se voit vraiment, enfin, on est très très bien à le lire avec des tout-petits.
Ça, c'est pour les 3-6 ans. Alors, si on passe sur la tranche du... Non, on reste toujours dans cette
toujours
tranche.
Non, voilà. Toujours dans les 3-6 ans. Toujours dans les 3-6 ans, justement.
C'est un grand auteur, mais qui se met donc au dessin pour enfants. Didier Decoing. Rappelez peut-être en deux mots qui est Didier Decoing. Et donc, c'est un livre intitulé « Au contraire ».
Absolument. Donc, « Au contraire », voilà, c'est son premier album pour la jeunesse. C'est l'histoire d'un bébé cheval, pas tout à fait comme les autres. C'est un joli conte qui parle de courage, d'indulgence, de tolérance. Je vais juste vous raconter un tout petit peu le début. Voilà, ça se passe en Irlande. Un petit cheval né dans le haras de Monsieur O'Hara, au milieu de toutes les collines bleues d'Irlande. Les dessins sont sublimes. Vous voyagez en Irlande, vous avez le vent qui vous fouette le visage.
C'est un dessin plus impressionniste, on
oui,
va dire.
Oui, tout voilà. à fait.
Et les couleurs sont très jolies.
C'est très très joli, très très vivant. Et ce petit cheval est tellement sublime que le papa, le propriétaire du haras, se voit déjà à la tête d'une petite fortune lors des futures courses où ce poulain va pouvoir se manifester. Mais comme c'est aussi l'anniversaire de sa fille Sarah, c'est aussi le cadeau d'anniversaire de sa fille. Quand il est le grand jour, on présente le poulain aux journalistes, à tous les propriétaires de haras de la région.
Et là, patatras.
Et patatras, le cheval galope à l'envers. Donc, horreur, c'est une catastrophe, consternation. Le papa décide d'envoyer le poulain à la boucherie.
Ah.
Bon, non, ce n'est pas un livre horrible, vous allez voir, il y a des rebondissements. Bon, je ne vous raconte pas le rebondissement pour que vous puissiez le découvrir. Mais sachez qu'au contraire, voilà, c'est une très très belle histoire. Ça montre que ce n'est pas parce que l'on est différent que l'on n'est pas quelqu'un de formidable.
Donc c'est en l'occurrence, c'est le cheval qui est différent, simplement.
Le cheval est différent. Il n'y a que lui qui est différent. C'est-à-dire que ce n'est pas courant de galoper à l'envers. Voilà, c'est vrai que ça peut surprendre. Et c'est une petite métaphore de l'enfant parfait. Voilà, ne pas oublier que l'on est comme on est. Et ce n'est pas parce que l'on est différent et pas comme tout le monde que l'on n'est pas une jolie personne.
Mmh. Est-ce qu'on sait pourquoi Didier Decoin s'est mis comme ça à...
Non, j'ai essayé de trouver, pas du tout.
Il n'a pas donné une interview
j'ai pas
pour expliquer.
Non, je n'ai pas trouvé d'interview à ce sujet, mais j'ai trouvé ce livre vraiment mis en pleine fraîcheur, très joli et qui donne une grande confiance en soi, je trouve. Voilà, même si je n'ai pas 3 ans.
Monique, je vous taquine, mais Didier Decoin, vous l'avez reçu ou pas ?
Et non, je ne l'ai pas reçu, oui, maintenant que vous me faites, c'est bizarre d'ailleurs, c'est étonnant, non, je ne l'ai pas reçu, mais j'avais aimé ses premiers bouquins, effectivement, et je ne savais pas qu'il écrivait pour les enfants maintenant.
Et ben voilà, c'est Didier Decoin.
Il doit être grand-père.
Illustration, exactement, ça doit jouer. Illustration Alexandra Huard, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Vous voulez ajouter encore quelque chose ou on passe au suivant ?
On peut passer au suivant.
Alors, le suivant, si je ne me trompe pas dans mes fiches, Alma, le vent se lève, paru aux éditions Gallimard, c'est de Timothée de Fombelle.
Absolument, donc Timothée de Fombelle.
C'est déjà plus copieux.
Tout à fait, donc c'est le premier tome d'une trilogie. Bon, il faut savoir que le premier tome fait déjà 400 pages. Mais
c'est,
bon.
C'est pour quel âge, juste là ? On est
passé
à quelle tranche ?
C'est la tranche des 12 ans. On peut commencer à 12 ans. Les parents peuvent aussi le lire parce que c'est passionnant. Vraiment, il me tarde de lire le second tome qui ne sortira qu'en 2021. Oh. Donc, il va falloir patienter et ce n'est pas évident. Donc là, vous êtes avec Alma, une petite fille de 13 ans. On est en 1786. Alma, ça veut dire libre chez les Hoko et c'est sa tribu. Alma vit avec ses parents et ses frères dans un petit paradis, une petite vallée d'Afrique magnifique. Mais ça, la seule limite à sa liberté, lui a dit son papa, c'est de ne pas sortir de la vallée. Or, un jour, un cheval zèbre apparaît. Elle l'appelle Brouillard. Est-ce vraiment un zèbre ? Et à partir de là, est-ce que son frère et elle vont résister à l'idée d'aller voir cet ailleurs inconnu ? Parallèlement, nous rencontrons un jeune orphelin de 13 ans qui embarque de La Rochelle sur un navire, la Douce Amélie, navire qui va faire la traite négrière. Et ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il parle pour les jeunes de la traite négrière, de ce trafic d'êtres humains, que ce soit femmes, enfants, hommes, les conditions abominables de leur capture, de l'attente pour qu'ils soient, entre guillemets, transportés. C'était vraiment des marchandises. Ils étaient allongés dans les bateaux. Ils avaient à peine 60 cm avec la couche de l'autre esclave qui était au-dessus de lui. Et donc, c'est un livre qui vous fait trembler, qui vous...
Et c'est l'histoire de l'amitié de ces deux, enfants.
Voilà,
donc,
ils vont se rencontrer,
Joseph,
tout à fait. Et donc, ils vont vivre des aventures terribles. Ils vont s'accrocher. Ils vont être portés par l'espoir, par la liberté. Ils vont vivre des choses difficiles. Et vraiment, vous êtes c'est vraiment une aventure, une fresque sur l'amitié, l'esclavage, le racisme, la contrebande. Il y a tous les ingrédients. C'est le film de KPDP que nous avions quand nous étions jeunes. Vous étiez beaucoup trop jeune,
Emmanuel. Quand même, il y avait des films de KPDP à mon époque.
Moi, je m'en souviens.
On n'était pas encore
Monique,
au cyborg.
Monique, vous devez vous souvenir. Il y avait des films fabuleux quand nous étions jeunes.
Alors, c'est un livre qui a été primé, vous dites ?
Non, mais moi, c'était du temps de Gutenberg.
Non.
Alors, vous dites qu'il a eu le prix Gulli, c'est ça ?
Voilà,
c'est quoi le prix Gulli ? C'est un prix pour la jeunesse,
en fait ? C'est un prix pour la jeunesse, mais c'est vrai que je n'ai pas approfondi le prix Gulli.
Prix Gulli 2020.
Voilà, donc, mais pas pour celui-ci, puisque celui-ci... Ah ben si, il me semble peut-être que c'est pour celui-ci, puisqu'il est sorti en septembre 2020. Voilà, avec ces histoires de confinement, je ne sais plus quelle année nous sommes. Bon, je le conseille pour tous vos jeunes, les parents aussi. Il va falloir patienter, et ça c'est vraiment très très dur, hein, pour atteindre le second tome. Je trépigne. Voilà, une histoire vraiment fabuleuse, un coup de cœur pour une histoire splendide.
C'est donc Alma, le vent se lève, de Timothée de Fombelle, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, on revient un petit peu en arrière, puisque celui-là, vous dites qu'on peut le lire après, à partir de 8-9 ans. Les fabuleuses...
Le prochain, tout à fait. Oui.
Les fabuleuses, parce que là, vous disiez que c'était à partir de 12, les fabuleuses aventures d'Aurore, de Douglas Kennedy. Douglas Kennedy, vous l'avez reçu, Monique Fauché, ou pas ?
Décidément, mais vous mettez... Oula, alors vraiment, vous me mettez en
Monique
situation
Fauché, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible,
ça. Non, maintenant, je ne reçois que les prix Nobel ou les académiciens.
Ah, excusez-moi.
On a la chance de vous avoir.
Bon, et les prix Goncourt ? Parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'anomalie du dernier prix Goncourt.
Oui, mais là, pour l'instant, les écrivains d'Europe, de France... et de Navarre, d'ailleurs, et des étrangers, n'en parlons pas, ne viennent pas jusqu'à Toulouse. Hein. C'est bien le problème.
Vous êtes
la
pâtée.
Que des gens de la région.
Mais vous êtes confinés donc, avec les écrivains du Sud-Ouest, et vous allez tout à l'heure nous faire découvrir un écrivain dont vous avez été... une belle découverte. Alors, donc, Les fabuleuses aventures d'Aurore, de Douglas Kennedy, illustration, Johann Sfar. Donc, il faut rappeler peut-être en deux mots qui est Douglas Kennedy et qui est Johann Sfar.
Douglas Kennedy est plutôt un écrivain pour adultes. Des thrillers psychologiques. Johann Sfar, c'est l'écrivain, l'auteur de BD. D'ailleurs, il y a eu un film du Chat du Rabbin, qui a remporté plusieurs prix. L'alliance des deux donne un premier roman jeunesse illustré sublime. Vous allez faire la connaissance d'Aurore, une petite personne qui est handicapée puisqu'elle est autiste. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'apprendre que Douglas Kennedy, en abordant ce thème, avait un fils qui est autiste. Et je pense qu'il s'est imprégné de son fils qui s'appelle Max, voilà, en tant que papa. Son héroïne a un regard différent sur le monde, une authenticité indéniable. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas du tout triste. C'est un livre sur la tolérance et c'est aussi un regard des autres sur l'handicap. C'est-à-dire que tout en parlant de la différence de cette petite fille et donc en l'accompagnant dans son aventure, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle est handicapée. Elle réagit comme toutes les petites filles, sauf qu'elle ne parle pas, elle ne communique qu'avec une tablette.
Alors, vous pouvez peut-être dire son aventure, c'est que donc sa vie n'est pas toujours très simple.
Elle a une vie très...
Elle a une certaine Anaïs qui l'a...
Elle a une professeure particulière, puisqu'elle ne peut pas aller à l'école pour l'instant, même si par la suite elle risque d'y aller. Voilà, elle est déscolarisée, elle a un accompagnement personnalisé, elle a un papa, une maman, une grande sœur, il y a les amis de sa sœur, des amis bienveillantes, d'autres qui ne sont absolument pas gentilles. Et c'est là que c'est intéressant, le regard... Si on n'est pas formaté, certaines personnes ont un regard fortement discriminant. Donc, il aborde aussi vraiment le regard de ces personnes à qui qui sont remises à un moment à leur place, ce qui est à même.
Alors, elle est missionnée par un certain inspecteur Jouvet, si j'ai bien compris, pour enquêter sur un vol de livres anciens, c'est ça ?
Alors, non, ça c'est dans le prochain tome.
Ah,
voilà, c'est dans
gouré.
Le prochain tome, bon. Voilà, que vous pouvez lire et qui sublime aussi. Moi, j'ai commencé par le tout premier.
Compte, maintenant, j'ai préparé l'affiche pour le mauvais livre.
C'est pas grave. Non, là, juste, une amie de sa sœur disparaît. Et l'amie de sa sœur, justement, aussi, elle n'est pas handicapée, mais elle n'est pas conforme aux normes. Elle est un peu enveloppée. Donc elle subit elle aussi les moqueries des petites minettes qui sont au collège et qui oublient que la différence n'est que dans le regard que l'on porte sur les autres. Et cette petite fille, Aurore, part à la recherche de l'amie de sa sœur qui a disparu et, avec l'aide de cet inspecteur, finit par mener une enquête. Voilà. Mmh. À vous de découvrir comment, pourquoi. Enfin, vous allez vous régaler parce que on n'oublie pas Aurore quand on a terminé le livre. C'est original, ce n'est pas pessimiste, c'est frais, c'est vivant, c'est un tourbillon de vie, un régal. Et je vous envie beaucoup de le découvrir.
Eh bien, c'est parfait. C'est donc alors le titre, puisque je m'étais trompé, Les fabuleuses aventures d'Aurore. Mais donc, voilà. C'est le numéro 1, c'est ça ?
Voilà, tome 1. Il y a tome 2 qui est sorti et qui s'appelle...
Aurore et le mystère de la chambre secrète.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm.
Voilà, donc on peut en avoir deux, même pour le prix d'un. Enfin, pas pour le prix d'un, mais on peut en lire deux. C'est donc aux éditions Pocket Jeunesse. Eh bien, merci. On va donc redire. Merci. Pour les 3-6 ans, c'est donc...
Les 3-6 ans, Liello fête Noël.
Voilà, GM édition.
Tout à fait. Ensuite, Au contraire de Didier Decoing avec des illustrations d'Alexandra Huard.
Robert Laffont.
Voilà, Alma de Timothée de Fombelle, Le vent se lève. D'ailleurs, Alma, quand j'ai lu Alma, je venais de finir Bakita de Véronique Olmy. Donc j'étais vraiment dans le... La dans période l'ambiance. Esclavage, Alma est plus doux et peut être lu par tout le monde. Mmh. Bakita peut choquer les jeunes, oui, les jeunes lecteurs. C'est Bakita, très dur. Voilà.
Et donc
le dernier
éditeur, donc c'est Gallimard Jeunesse. Voilà. Gallimard Jeunesse, c'est celui-là. On vient d'en parler. Les fabuleuses aventures d'Aurore
de Douglas Kennedy et Johann Sfar.
Johann Sfar, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse.
Pocket Jeunesse.
Allez, on fait une pause et puis on va retrouver notre dame littérature pour parler de quelques romans, entre autres donc un roman découvert récemment d'un auteur du Sud-Ouest. Ça tombe bien puisque Monique Fauché, vous nous dites que vous êtes confinée aux auteurs du Sud-Ouest en ce moment. Et puis vous nous reparlerez d'un livre qui, semble-t-il, vous a beaucoup plu puisque vous nous en aviez déjà parlé.
L'auteur déjà est également du Sud-Ouest.
Ah voilà, bravo, exactement, il est toulousain, c'est vrai. Et ben ça en fera au moins 2 sur 3.
Bon, et puis bon, le troisième nom est Francisco Coloane.
Ça fait un peu loin.
Mais voilà.
Allez, on vous retrouve dans quelques minutes.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Des livres pour Noël, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, presque veille de Noël, en tout cas juste avant la semaine de Noël, pour les retardataires, quelques idées de cadeaux ou idées de lecture à l'occasion des vacances, avec autour du plateau Sylvie Austry en charge de la chronique Coup de cœur des jeunes sur notre antenne, Monique Fauché, coproductrice de l'émission Parole d'auteur et Parole de lecteur, et Isabelle Duché en charge d'une autre chronique, Famille et vous, ça fait partie de tous les bénévoles qui font vivre cette radio. Heureusement qu'on vous a. Alors Monique Fauché, il faut dire quand même que voilà, je suis très content de vous avoir dans cette émission parce que vous traversez courageusement ces confinements, on va dire, multiples. Vous continuez votre émission en ayant vos studios depuis chez vous. Vous recevez des auteurs. Voilà, et on est bien content de vous avoir là. Dans votre salle à manger. Alors, on s'en a pas déplacé, là, les studios de Vivante Église, mais peut-être que si les confinements se multiplient,
on finira par le faire.
Voilà.
D'accord.
Alors, vous avez eu, semble-t-il, Monique, un grand coup de cœur, puisque vous nous reparlez des jours de Sylvain Houillon. Sylvain Houillon, donc, qui est un Toulousain, donc océanographe, directeur de recherche, qui, a priori, donc, qu'on n'attend pas forcément sur ces sujets, spécialiste, semble-t-il, de la modélisation des courants et du transport des sédiments, et qui donc a écrit, c'est son premier roman, c'est ça, chez Gallimard,
oui,
Les Jours,
oui,
qui a été un grand succès.
Ah oui, un roman fabuleux. Alors, c'est un océanographe, en effet, vous avez raison, Emmanuel, qui navigue, si j'ose dire, entre Toulouse et les Vietnam, et pour la petite histoire, il est venu à Radio Présence la veille du confinement, du premier confinement. Et quand il m'a dit qu'il était arrivé depuis 2 jours du Vietnam, honnêtement, j'ai un peu frémi. Bon, parce que je me suis dit, est-ce qu'il ne rapporte pas avec lui quelques Covid. Mais alors, c'est un homme vraiment très sympathique, très dynamique, et son premier livre a 649 pages. Alors,
mais
effectivement, j'en ai déjà parlé, mais on s'embête pas dans ce livre. Vous vous souvenez de ce dont on a parlé?
Je me souviens d'une chronique. C'est une chronique familiale qui est la sienne au milieu de la grande histoire, et que la gageure, c'était de faire vivre les deux.
Ah oui, absolument. Et ça, il le fait remarquablement. C'est l'histoire de sa famille, de sa propre famille. Alors, ce qui est intéressant, je vais peut-être pas entrer dans toute l'histoire puisque je me répéterai, mais la manière dont il a écrit, il a beaucoup écouté. Apparemment, dans la famille, il y a toujours des personnes dans des familles qui peuvent raconter. Il faut penser à leur poser des questions aussi, hein, parce que ce sont des témoignages importants qu'il faut garder et qu'il faut colporter aux enfants et aux petits-enfants. Alors, il y a des témoignages, il a écouté des récits issus de la mémoire, mais plus ou moins transformés, évidemment, il y a des témoins. Il y a des anecdotes vécues, des querelles, des événements tristes ou des... Et il a enregistré aussi certains 12 cassettes. Il a également utilisé des écrits, des lettres, des notes, des souvenirs de voyage, des photos. Et alors, ce qu'il y a de drôle, mais de passionnant, parce que vraiment, ça fait une diversité, si vous voulez, de styles. C'est à la fois des monologues, des dialogues, des apartés. Il intervient aussi personnellement à certains moments, aussi bien sur l'absence de discernement au cours de la Deuxième Guerre mondiale, chez certains, on le sait, que sur la construction des civilisations, par exemple, ou sur l'art moderne, à un moment donné. Mais il y mêle aussi des informations historiques, pas trop compliquées, mais ça resitue le récit, des informations culturelles.
Alors,
en fait, voilà.
Monique Fauché, avant que vous parliez justement de ce roman à l'intérieur, enfin de cette deuxième histoire qui est la grande histoire à l'intérieur de l'histoire, sa saga familiale, en fait, c'est une saga familiale comme on va dire assez classique. Il n'y a pas de figure particulière, hein, c'est ça. Ça commence dans la campagne du Creusot, 19e siècle. C'est Monsieur, Madame, tout le monde.
Exactement. Alors, je vais dire que les arrière-grands-parents étaient illettrés. Et ensuite, ce sont des gens simples, des gens bon, qui ont des vies relativement modestes. Les plus hardis vont partir dans les colonies. Et ça aussi, c'est un regard sur les colonies avant les années 50. C'est passionnant, passionnant. Et je crois que c'est un regard très juste et qui informe beaucoup. Parce que, justement, on n'est pas au niveau d'un gouverneur, on n'est pas au niveau d'un général. Non, c'est au niveau de gens qui sont souvent des petits fonctionnaires. Ça peut être un postier, etc. Et vraiment, ça nous donne un éclairage Je ne vais pas dire au ras des pâquerettes, ce serait désobligeant pour eux, mais un éclairage vrai. Et je trouve ça vraiment très, très bon. Et croyez-moi, 649 pages, on les lit sans problème. On peut s'arrêter, bien sûr, hein, mais on est toujours très intéressé. Enfin, donc, c'est le roman de Lucien essentiellement et de Simone, fils d'Augustin Devoise, lui-même ami de Lénine quand il était étudiant, Lénine qui apprenait à faire du vélo dans un parc parisien. Enfin, il y a des tas d'anecdotes et des choses vraies. Et évidemment, je pense qu'il y a la patte du romancier quand même. Hein. Par exemple, ce qu'il dit, il le dit lui-même, que quand il a quelques notes, parfois il comble certains creux. Parce que je ne vous ai pas dit, Emmanuel, que en fait, cet ouvrage couvre une période qui va de 1830 à 1980. Ça couvre deux guerres. Donc,
alors, j'ai cru comprendre que ça se terminait en 1992, place du Capitole à Toulouse, entre l'hôtel du Grand Balcon et le McDonald's.
Voilà. Oui. Oui, la donc... vieille parente qui rêve de manger un McDo. Voilà, mais voyez, on...
Les jours donc de Sylvain Houillon, c'est paru donc aux éditions Gallimard, et donc ça nous fera probablement entrer tous à l'occasion de Noël, un peu dans notre histoire à chacun.
Ah oui, à mon avis, c'est un très beau cadeau, oui. Et voyez, quand il parle de l'histoire et des histoires, parce que dans la famille, il y a eu des problèmes, des conflits, et puis des positions, des prises de position pendant les guerres pas toujours raisonnables, il ne juge pas, il ne porte pas de jugement, il raconte, et avec beaucoup de bienveillance aussi. Voilà.
À lire donc Les Jours, Sylvain Houillon, paru aux éditions Gallimard. Alors deuxième, c'est votre découverte presque de ce deuxième confinement, si j'ai bien compris, c'est Jeanne Dieu la Foi, donc le destin fabuleux de Jeanne Dieu la Foi, c'est de Audrey Marty, et c'est paru dans une édition, donc une maison d'édition peu connue, Papillon Rouge. C'est un écrivain du Sud-Ouest, et ça parle d'une femme de notre pays.
Alors écoutez, moi j'ai été estomaquée. On connaît Olympe de Gouges, on connaît Alexandra Davinel, on connaît Ella Maya et bien d'autres, souvent des anglo-saxonnes, mais Jeanne Dieu la Foi, ma grande honte.
Des aventurières, voilà, des aventurières, pour ceux qui ne les connaissent pas.
Des aventurières, mais qui écrivaient, qui étaient quand même, qui avaient souvent, qui étaient aussi intellectuelles, si je peux dire. Jeanne Dieu la Foi, je ne sais pas, alors moi je ne la connaissais pas. Or, elle a un petit monument à Pompertuzet, mais petit, hein, modeste, et elle est enterrée à Terre-Cabade. Alors, elle est née au 19e siècle. Elle est née dans une famille le père était drapier. Il habite.
Au château de Langlade, à Pompertuzat, près de Toulouse.
Attention.
Ah non, pardon, non, là c'est là où elle est morte, donc oui, c'est pas une chose.
Il y a une rue qui porte son nom.
Elle est née à Toulouse, le 29 juin 1851.
Voilà, elle est née à Toulouse, et en fait, le père était drapier rue Jouxte-Aigle, qui existe toujours dans le quartier des Carmes. Voilà. Donc, le père avait un commerce de draps. Et elle a eu une éducation assez peu conformiste, puisqu'on l'a laissé préférer faire du cheval avec son frère dans le château familial de Pompertuzat, dont vous parliez, plutôt que de mettre des robes et boire du thé au salon. Alors, elle est très drôle. Bon, alors, écoutez, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette personne. Ça a été, si vous voulez, c'était une femme intelligente, cultivée, intrépide.
Alors, parlez-nous de ses aventures, parce que là, pour l'instant, vous n'en avez pas parlé. Donc, elle a épousé donc un monsieur de la foi, Dieu la Foi.
Monsieur Dieu la Foi, polytechnicien, architecte et archéologue, et qui appartenait au même milieu d'ailleurs, parce que son père était drapier lui aussi, et très, très féministe, parce qu'il a accepté que sa femme ne s'habille qu'en tenue masculine, à une époque où c'était interdit quasiment. Hein. Voilà, et donc lui, il avait un dada. Il pensait que l'architecture européenne moderne serait fortement inspirée de l'architecture mauresque et même mieux de l'architecture persane, c'est-à-dire iranienne. Et donc, il embarque sa jeune femme. Alors attendez, j'ai pas fini quand même de dire qu'Olympe de Gouges, ses parents ont vite découvert qu'elle était très intelligente. Et du coup, ils l'ont envoyé faire ses études dans la très réputée institution catholique de l'Assomption, catholique de l'Assomption, les religieuses de l'Assomption, expulsées en 1906 du domaine d'Auteuil, y reviennent en 1953.
Alors Monique, et juste, là... comme je vous sais passionnée, racontez-nous plutôt ces aventures sur les routes de la Perse. Donc c'est une femme qui était une aventurière, poursuivre son mari, ça vous ne le direz pas, je le dis à votre place, elle l'a suivi aussi dans la guerre franco-prussienne, et elle a été au front habillée en franc-tireur, et donc
habillée... voyage de noces.
C'était... Ah, sympa.
Voilà, en tout cas, elle n'a pas voulu se séparer de son mari et donc elle s'est fait passer pour un homme. Racontez-nous sur la route, surtout son voyage sur les routes de Perse assez exceptionnel qui a donné lieu, il faut le dire, à des publications qui lui ont valu des honneurs. Elle a reçu entre autres la Légion d'honneur et puis elle a fait partie de quelques sociétés savantes, je crois, littéraires. Quelle était cette aventure, Monique Fauché?
Elle a écrit ses ouvrages, oui. Alors, ses aventures, elle est arrivée en Perse. D'abord, elle est arrivée sur un bateau où il était interdit de fumer, interdit d'allumer une allumette. Et ils ont compris qu'en fait, que ce bateau était chargé d'explosifs. Il y avait une guerre en Géorgie. Bon, déjà, première impression intéressante. Et ils sont arrivés, donc, ils ont fait plusieurs voyages. Un premier à leurs frais. Et ensuite, aidés par Viollet-le-Duc, ils sont partis, donc ils sont revenus à trois reprises en Perse. Et là, à Suse précisément, parce qu'ils pensaient que c'était là qu'on trouverait des choses intéressantes sur le plan architectural. Et c'est vrai, parce qu'ils ont fouillé. Et quand je dis ils ont fouillé, attention, elle n'était pas un porte-serviette. Hein. Elle n'était pas du tout celle qui est l'assistante qui prenait quelques notes pour son mari.
La potiche.
Comment ?
La potiche ?
Non, c'était pas du tout la potiche, exactement. Non. Et d'autant que dans cet établissement où elle était allée, elle avait appris plusieurs langues. Elle parlait au moins 5 ou 6 langues. Elle s'est mise à parler le perse. Et donc, pour la communiquer, je crois que son mari comptait beaucoup sur elle. Allez. Donc, ils ont fouillé.
Monique Fauché, il y a encore un livre dont vous devez parler, et là vous nous avez quand même déjà emmené jusqu'en Perse. On peut citer, donc, elle a republié donc, dans la revue Le Tour du Monde, le feuilleton donc, de son voyage. Elle a même publié un ouvrage en 1887 chez Hachette, La Perse, la Chaldée et la Suzanne. C'est donc un livre Jeanne Dieu la Foi, de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin. C'est Audrey Marty et c'est paru aux éditions Papillon Rouge. Vouliez nous faire voyager aussi autre voyage, donc Le Dernier Mousse de Francisco Coloane, c'est paru aux éditions Libretto, et c'est, si j'ai bien compris, alors c'est pas autobiographique, mais enfin entre l'auteur et le héros, il y a quelques concomitances, c'est une histoire de vaisseau.
Une passerelle sur un bateau, oui.
Voilà, une histoire de bateau et d'aventure, racontez-nous.
Oui, exactement, j'ai entendu Sylvie Ostry qui parlait de bateau et je me suis dit, tiens, voilà, nous rejoignons. Francis Coloane m'avait fait connaître la Patagonie du Sud, sa beauté, sa violence aussi, celui-là, je ne le connaissais pas, et pourtant, écoutez, il date de 1941. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un bouquin de 640 pages, celui-ci est tout petit, et je pense que, justement, il peut plaire également, il est très agréable à lire, parce que c'est un livre d'aventure quasiment réelle. Il n'a que 114 pages, vous voyez, c'est pas grand-chose, donc on peut les mettre entre les mains de jeunes également.
L'histoire, Monique, c'est quoi ? C'est Alexandro, 15 ans, qui s'embarque donc sur un voilier de l'école de la marine chilienne, et qui va découvrir...
Non, attendez, il ne s'embarque pas comme ça. Il s'embarque, et en fait, c'est un passager clandestin et il risque des coups de fouet. Mais il sait que le navire école, le Baquedano, une légendaire corvette à voile de la marine de guerre chilienne, fait son dernier voyage, il sera désarmé à son retour. Donc Alejandro, décide d'embarquer comme passager clandestin et il va réussir. Et là, il sera accepté. Et donc, habillé en mousse, il est content. Il va suivre le même cursus que les autres mousses. On découvre la vie à bord, les tâches, les dangers, les tempêtes. On découvre l'extermination impitoyable des baleines. Vous savez que Coloane s'est beaucoup battu pour les baleines, justement. Il s'est battu également pour les Indiens. Comment ils survivent? Alors, par exemple, il y a les Alakalufs qui déplacent les balises pour piller les bateaux qui font naufrage. Puis il y a les Yaganes qui se réfugient dans le paradis des loutres, loin de la civilisation avec un C majuscule. Voilà. Écoutez, c'est un livre qui se lit, il y a des descriptions magnifiques de la beauté de l'océan en particulier, voilà.
Eh ben merci Monique Fauché. Donc Les jours de Sylvain Houillon, c'est donc paru aux éditions Gallimard. Ça a été primé Les jours, non?
Je ne sais pas.
Ça peut être un bon livre sans être primé.
Oui, mais je ne sais pas.
Le destin fabuleux de Jeanne Dieulafoy, c'est donc avec comme sous-titre de Toulouse à Persépolis, l'aventure au féminin sur cette aventurière de notre sud-ouest, c'est donc de Audrey Marty, paru aux éditions Papillon Rouge. Et le dernier, c'est donc Le dernier mousse de Francisco Coloane, et c'est paru aux éditions Libretto. On fait une deuxième pause et puis on va vous retrouver, entre autres vous Isabelle Duché, pour quelques livres, Spi, et même certains qui parlent de cuisine, c'est dire. Des livres pour Noël, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi matin, avec autour du plateau Sylvie Austry, Isabelle Duché, en charge chacune de deux chroniques, Coup de cœur des jeunes et Famille et vous, et Monique Fauché, coproductrice de deux émissions, Parole d'auteur et Parole de lecteur. J'ai fait tellement d'émissions cinéma pendant ce temps de confinement que j'ai l'impression qu'à chaque fois on va parler cinéma le vendredi. Quelques livres spi pour finir, avec vous Isabelle Duché. Alors vous, vous avez été moins gourmande que les autres, vous en avez choisi deux. Il y en a un donc, dont on a déjà pas mal, enfin on a fait une émission, qui est un très beau livre, Couple de feu et de foi, c'est paru aux éditions de l'Emmanuel, c'est de Raphaël Simon, avec ce sous-titre, 7 histoires d'amour, 7 itinéraires spirituels. De quoi cela parle-t-il ?
Alors, ça parle de couples, hein, de couples qui sont chrétiens. Et en fait, ils ont des caractéristiques communes, ces sept couples. D'abord, ce sont des grands amoureux et on le voit dans leur correspondance, dans leurs petits mots. Ils ont vraiment des expressions extrêmement touchantes. Ils sont vraiment adorables. Voilà, on aimerait bien les voir vivre. Qu'est-ce qu'ils ont de commun aussi ? Ben, ils supportent mal la séparation et notamment, certains ont été séparés, notamment pendant les fiançailles, mais aussi pendant des moments plus longs. Et c'est là que la correspondance a vraiment pris sa place. Et dans cette correspondance, ils se disent des choses qu'ils n'oseraient pas se dire par oral. Alors
on peut dire aussi que ce sont pour un certain nombre des couples quand même assez connus.
Voilà, c'est justement ce que j'allais vous dire. Ce sont donc sept couples qui sont plus ou moins connus. Donc, il y a Frédéric et Amélie Ozanam qui ont été mariés en 1840. Je vous donne les dates de mariage parce que ça vous donne un peu une idée aussi des époques. Vous avez Félix et Elisabeth Le Sœur qui ont été mariés en 1889. Luigi et Maria Beltram Catrocci, mariés en 1905. Charles et Zita de Habsbourg, mariés en 1911. Baudouin et Fabiola de Belgique, mariés en 1960. Et les petits derniers, Enrico et Chiara Petrio. Et alors là, je n'ai pas donné la date de mariage, pardonnez-moi.
Mais en tout cas, elle est née en 1984, voilà. Donc ils sont jeunes. On a leurs photos, même en page centrale, alors peut-être pas tous, évidemment.
Si, ils sont tous en page centrale du livre.
Alors, on n'a pas toujours des photos, Frédéric Ozanam quand même.
On a des portraits.
On l'a pas, donc c'est des couples qui s'aimaient profondément.
Oui.
Enfin, c'est des grandes histoires d'amour et ce sont des couples pour un certain nombre, donc qui sont soit béatifiés, soit canonisés.
Voilà, ou en cours. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre de commun, ces couples ? Eh bien, en fait, ils se sentent davantage eux-mêmes sous le regard de l'autre. Et ça se voit bien quand ils en parlent. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuves. Et effectivement, ils ont tous eu des épreuves douloureuses à supporter, que ce soit l'exil pour Charles et Zita de Habsbourg, que ce soit la perte d'enfants ou bien la perte d'enfants pour Enrico et Chiara Petrio, que ce soit aussi des grossesses difficiles ou bien le fait de ne pas avoir d'enfants pour Baudouin et Fabiola de Belgique. Donc ils n'ont pas été épargnés et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont déjà révoltés contre ces souffrances, mais ils ont vraiment choisi de faire confiance en Dieu. Et donc, ils ont vraiment une joie qui a interrogé leurs contemporains.
Alors, il faut dire que c'est un film, décidément. Mais bon, il faut que je me soigne. Il faut que je lise que des livres pendant les vacances et que je regarde pas de films.
C'est une bonne thérapie.
En tout cas, c'est un livre qui est un sacré travail parce que d'arriver à parler comme ça de la vie intime de personnes qu'on n'a pas connues, ça prend du temps. Donc, c'est un ouvrage très conséquent, je le dis, parce que il faut saluer le travail donc, de Raphaël Simon, qui par ailleurs est une journaliste, on va dire, habituée des titres de la presse chrétienne. Vous vouliez nous mettre un coup de zoom sur deux couples, Fabiola et Baudouin de Belgique, alors qu'ils sont peut-être le plus connu des deux que l'on va aborder, donc roi et reine de Belgique. Une histoire d'amour complètement providentielle. Moi, j'avoue que je ne savais pas comment ils s'étaient rencontrés. Pouvez-vous nous raconter ça?
C'est un vrai conte de fées. En fait, le roi Baudouin, il n'était toujours pas marié à 30 ans. Il a été roi à 21 ans. Et en fait, il était vraiment convaincu qu'il lui fallait une épouse pour régner, pour remplir son devoir d'État et son
assurer sa descendance.
Non, pas seulement, mais
pour
vraiment pour être un bon roi, pour
bien
gouverner. Voilà, pardon. Et donc, il en a parlé au cardinal Suenens, qui était donc l'archevêque de Bruxelles. Et ce cardinal a fait intervenir une Irlandaise qui était une chrétienne très fervente. Et il y a eu une espèce elle était comme une entremetteuse, mais vraiment dans les mains du bon Dieu. Et elle est allée chercher donc l'épouse du roi Baudouin jusqu'en Espagne. Et elle a vraiment eu des motions intérieures que la femme qu'elle rencontrait était celle qui était destinée au roi Baudouin.
Par un concours de circonstances, enfin inimaginable. C'est donc une femme de l'aristocratie espagnole qu'elle n'aurait jamais dû croiser.
Non,
ni le roi Baudouin.
Qui elle non plus n'était pas mariée à 32 ans alors qu'elle avait de multiples qualités. C'est une très belle femme, intelligente, très généreuse, très pieuse. Et en fait, elle a dit, mais en fait, moi, j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu, je m'abandonne à lui. Donc, elle ne s'étonnait pas de ne pas être encore mariée à 32 ans.
Donc un couple exceptionnellement uni, donc qui n'a pas pu avoir d'enfant, lui
exactement.
Aussi.
Grosse souffrance.
Qu'est-ce qui vous a frappé d'autre dans ce livre ? Il s'aimait d'un amour plus profond que la mort, disait le cardinal Danils II, semble-t-il, aux funérailles de Fabiola, je crois.
Ils étaient très pieux et le roi Baudouin a écrit un petit journal et il a notamment écrit des petites prières. Qui moi m'ont beaucoup touchée parce que je me dis que quand on est marié on peut les prendre à son compte et même si on n'est pas marié on peut remplacer le prénom de sa femme par celui de personnes qui nous sont chères. Je vais vous dire une très belle prière qu'il a écrite que je trouve magnifique. Remplis Fabiola de ta sainteté, qu'elle vive de ta joie et de ta paix. Apprends-moi à l'aimer avec tendresse, qu'elle se sache aimée d'un amour de prédilection par toi. Augmente en moi pour elle l'amour qui vient de toi. Voilà, je me dis, si on pouvait dire tous les jours cette petite prière, ça ne ferait que renforcer l'amour conjugal et puis l'amour, évidemment, qu'on a pour le Seigneur et puis la sainteté de chacun.
Alors, je vais en citer une autre pour ce couple, donc ce couple royal, Fabiola donc, et Baudouin de Belgique. Cette fois, c'est elle, 10 ans après la mort de son mari. Ouais. C'est une lettre même qu'elle a osé publier dans la presse, entre autres dans le journal Le Soir. Il a tracé un sillon qui ne s'effacera jamais. Cet anniversaire m'incite à exprimer le bonheur que j'ai connu à ses côtés, qui se poursuit, car plus le temps s'écoule et plus il me fait vivre. Je l'ai regardé intensément à chaque moment, car on ne se lasse jamais de contempler celui que l'on aime. Son amour inépuisable coulait de source et engendrait le bonheur autour de lui et en lui-même, etc. etc. Bref, c'est une grande histoire d'amour, beaucoup d'élégance, de pudeur. Oui, allez-y Monique, on ne vous a pas oublié.
oui, je pense qu'ils ont eu tous les deux des actions altruistes formidables.
Ah mais oui, bien sûr.
Voilà, et en particulier ce qui m'avait frappé à l'époque où ils vivaient, ils se sont occupés de prostituées.
Exactement.
À sortir de la prostitution.
Exactement. On dit que le roi Baudouin avait le don de repérer dans une foule une personne qui était en souffrance.
Oui.
Et le livre en parle et dit aussi que ce couple qui a été privé d'enfants avait un amour particulier pour les enfants et une grande attention à de multiples enfants en difficulté. Alors vous vouliez ensuite choisir un autre couple, royal à sa manière aussi. C'est le dernier couple dont il est parlé, les plus contemporains. Lui est d'ailleurs toujours vivant.
Oui.
Chiara et Enrico Petrillo. Elle est née donc en 1984. Il avait 5 ans de plus que lui. Ils sont beaux gosses, comme on dit dans le jargon. Il y a leurs photos. Voilà. Ouais. On pourrait les voir à Roland-Garros en train de regarder un match de tennis.
Exactement.
Avec leurs lunettes noires. Racontez-nous un peu l'histoire de ce couple.
Oui. En fait, là aussi, rencontre providentielle. Ils sont retrouvés complètement par hasard à un pèlerinage à Medjugorje. Vous savez, cet endroit en Bosnie-Herzégovine qui est devenu un lieu de pèlerinage. Alors, lieu de pèlerinage reconnu par l'Église, mais en revanche, lieu d'apparition qui, elles, n'ont pas été reconnues par l'Église.
Sujet à interrogation toujours.
Exactement. Voilà. Et en fait, ils se sont...
Coup de foudre.
Ils se sont vus d'un regard et elle a tout de suite dit... Cet homme-là, ce sera mon mari. Donc,
ce garçon est à moi, même.
Voilà, exactement. Oui, oui. Ouais.
Et alors, elle avait du tempérament, l'italienne.
Ah oui, elle avait du tempérament, oui, oui. Et donc, ils se sont rapidement fiancés, enfin, rapidement, au bout de 5 mois, mais en fait, les fiançailles ont été extrêmement houleuses. Et avec un petit regard en arrière, un petit retour en arrière, en fait, elle, ils étaient jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, elle a compris qu'elle avait besoin, en fait, de cheminer dans ce que c'était que l'amour. Et elle, je vous cite ce qu'elle dit. Elle comprend ce que veut dire aimer une personne. Et voilà ce qu'elle en dit. Accepter, ne pas tout comprendre d'elle, être prêt à se laisser changer, donc à souffrir, à renoncer à quelque chose pour elle. Et voilà, elle a vraiment fait cette petite révolution. Et donc, il y a eu des allées et des retours dans cette période de fiançailles. Et puis finalement, ils ont fait un dernier pèlerinage pendant 10 jours jusqu'à Assise. Et là, ça les a réconciliés.
Ils étaient donc très religieux tous les deux.
Ah oui.
Même si la photo ne peut pas le laisser entendre comme ça de prime abord. En tout cas, ils étaient nés dans des familles chrétiennes. Oui. Mais Dieu était quelqu'un pour eux, il faut quand même le préciser.
C'est vrai.
Alors, ils ont eu plusieurs enfants. Deux sont morts en bas âge.
Oui, ils sont même morts juste après la naissance.
Juste après la naissance, pardon.
C'est très douloureux.
Et un troisième enfant est arrivé, Francesco. Et là, le drame commence.
Et là, le drame se poursuit parce que c'est vrai que les deux premières grossesses étaient extrêmement difficiles. Et à chaque fois, on disait à Chiara, écoutez, là, il faut que vous avortiez parce que sinon, vous allez y passer. Et à chaque fois, elle a fait le choix de garder son bébé et en demandant la grâce que le bébé arrive vivant à la naissance. Et il a pu, les deux premiers enfants ont pu être baptisés et avoir quelques heures avec leurs parents. Donc, cette troisième grossesse se passait a priori plutôt pas mal, mais malheureusement, on découvre une tumeur à la langue pour Chiara. Et là, elle refuse d'être traitée de son cancer tout au long de sa grossesse pour ne pas intoxiquer son bébé. Et puis, comme par miracle, son bébé naît à 37 semaines et il est tout beau. Et en revanche, elle est en trop mauvais état, elle souffre énormément. Mais ils ont la chance d'être accompagnés par un prêtre qui leur montre vraiment le chemin. Alors elle se révolte de tant de souffrances et aussi de cette vie qui n'est pas la vie dont elle avait rêvé. Elle crie au bon Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas donné une famille avec trois enfants en bonne santé et puis pas de souffrance.
Elle sait qu'elle est très malade et qu'elle va partir aussi.
Oui, elle est condamnée et petit à petit, il se prépare à cette mort. Et puis, en fait, elle recevait du monde dans sa chambre et en fait, elle faisait rire les gens, elle les détendait, elle les rassurait. Et puis finalement, elle est quand même morte, donc très jeune, elle avait 28 ans, mais elle est morte vraiment rayonnante. Et juste avant sa mort, il y a eu une messe qui a été dite dans sa chambre. Et Enrico a dit, voir Chiara si éprise de Dieu était tellement beau. Et à la fin, il a dit, nos lampes sont allumées, nous attendons l'époux. Donc ils étaient vraiment prêts à ce que Chiara meure. Et à l'enterrement, lui, il composait beaucoup de musique, ils ont repris les mêmes chants qu'à leur mariage. Donc en fait, c'était pas triste.
Voilà, et il y a un procès en béatification qui a été ouvert pour cette belle Italienne, ouais, au sens propre comme au sens figuré.
Exactement.
Il nous reste quelques minutes, moins qu'on aurait prévu, pour parler d'un autre livre qui montre qu'on peut mettre de la spiritualité partout, La cuisine de la joie pour une cuisine naturelle, sobre et savoureuse. Et on pourrait imaginer qu'il n'aurait pas pu rajouter spirituel. C'est aux éditions Casar de Bénédicte de Saint-Germain. Donc c'est un petit livre, on va dire, très pratique, hein. Mais vous pouvez commencer peut-être par dire sa finalité. Elle en parle dans son introduction. Elle disait qu'elle était, elle, plutôt habituée des courses sur Internet et du Picard et pas très sensible à la bonne cuisine. Et elle a fait sa petite révolution.
Voilà. Et ce livre nous invite à une petite révolution, mais vraiment tout en douceur. C'est vraiment un petit bijou parce que déjà, la couverture est très jolie.
Très jolie,
et puis c'est bien présenté, c'est bien écrit. Et c'est un livre qui est assez ludique parce qu'il y a des tests, parce qu'il y a des variations sur quelques recettes. Mais surtout, voilà, c'est un livre qui nous invite à mettre de la joie dans sa cuisine. Donc la joie, elle passe par le goût. Alors le goût, c'est des aliments sains, des aliments frais, de saison. La joie, elle passe aussi par la vue, donc des couleurs. Plutôt que tout mélanger et mettre tout dans le même plat, on essaye de séparer. La joie, elle passe aussi par le goût. Donc on essaye de varier les cuissons, on essaye de faire des vinaigrettes un peu différentes pour ne pas masquer en fait le goût des aliments. On met différentes herbes, on met différentes épices et là, Bénédicte de Saint-Germain, elle donne vraiment qui va bien avec quoi. Voilà, elle fait plusieurs suggestions. Donc, en fait, c'est pas un livre qui est théorique, c'est vraiment un livre qui est très pratique.
C'est un livre dans lequel on peut piocher. Hein.
Voilà.
C'est des tout petits chapitres. Et donc, il y a différentes... Elle parle d'étapes. Remplissons sagement nos placards. Ouais. Zéro gaspille. Organiser. Voilà, le rêve de toutes les mères de famille. Sobriété à tous les étages. Et puis, à chaque fois, il y a des petites portes d'entrée. Vous pourriez en choisir l'une ou l'autre, peut-être, pour nous donner un aperçu.
Alors, je vais vous prendre l'exemple d'un zéro déchet. Parce qu'évidemment, quand on jette la nourriture à la poubelle, on se dit qu'on a raté. Soit c'était pas bon, soit on a trop prévu. Et alors, elle donne un exemple dans son livre, qui est l'exemple du poulet. Alors déjà, vous n'allez pas acheter votre poulet sous cellophane. Vous allez le commander chez un bon producteur local et si possible bio. Et donc, votre poulet va être nourrissant. Donc, vous le paierez peut-être un peu plus cher, mais vous en donnerez moins à votre famille. Et puis, comme ce poulet ne va pas forcément vous faire un seul repas, vous allez vous en servir peut-être 2-3 fois. Donc, vous allez pouvoir utiliser les restes pour mettre dans un risotto. Et puis, vous allez faire cuire la carcasse avec de l'eau et des herbes et du sel. Ça va vous faire un bouillon et vous pourrez utiliser ce bouillon pour faire un risotto. Donc, vous voyez, c'est économique, c'est sain et c'est simple. Voilà un peu le leitmotiv de ce livre.
Et voilà, et de la joie, on peut en mettre y compris dans la cuisine. Pourquoi est-ce que Exactement. Vous diriez, allez Monique, pourquoi c'est peut-être vous qui faites la cuisine depuis le plus longtemps autour de cette table, la cuisine est-elle spirituelle, Monique ?
Oui, surtout si on mange des Saint-Jacques, non ?
Elle est forte, bravo Monique. Pour rappel, donc les deux livres dont on a parlé, il aurait fallu qu'on ait plus de temps, pardon, pour La cuisine de la joie, très beaucoup, très bon. Donc La cuisine de la joie, pardon, c'est donc aux éditions Casard de Bénédicte de Saint-Germain, et l'autre livre, c'est Couple de feu et de foi, sept itinéraires d'amour, sept itinéraires spirituels, c'est de Raphaël Simon et c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Je remettrai tous les titres sur le site internet de Radio Présence, c'est promis. Un grand merci à vous, en tout cas, et bonne lecture à chacun. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la écouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.